Vous écoutez, on lit pour vous.
La coévolution de la vie et du climat à l'échelle des temps géologiques. Un texte de Pierre Saint-Joffre et Sylvain Bernard, paru dans le magazine La Recherche, avril-juin 2023. Depuis quelques 4 milliards d'années, le destin de notre planète est intimement lié à l'évolution de la vie terrestre. Cette coévolution est particulièrement probante lors de deux périodes massives d'extinction qui ont redistribué les cartes biologiques. Ces épisodes passés sont lisibles aujourd'hui dans les roches, des témoins importants de notre passé et des clés de compréhension de notre futur. Au cours des 4,56 milliards d'années de son histoire, la Terre a vécu de grandes perturbations climatiques, telles les glaciations globales de type terre-boule de neige, Snowball Earth, ou les phases d'oxygénation de son atmosphère. Nombre de facteurs physiques influencent le climat de notre planète, notamment l'activité solaire, son orbite ou la tectonique des plaques. Mais certaines des plus grandes perturbations climatiques ont été engendrées par la vie. Tout comme l'activité anthropique actuelle est responsable d'un dérèglement climatique global, l'émergence de certains métabolismes biologiques au cours de l'histoire terrestre a en effet eu un impact majeur sur la chimie de l'atmosphère et de l'océan et, par conséquent, sur le climat. Ces changements climatiques ont réciproquement eu une influence majeure sur l'évolution de la vie, responsable à la fois d'extinction massive d'espèces, mais aussi d'explosions biologiques. La surface de la Terre était très différente il y a 4 milliards d'années. Une lune plus proche, des marées de plus forte amplitude, une température plus élevée et surtout, une absence totale d'ozone et de dioxygène dans l'atmosphère la rendait hostile à la plupart des formes de vie macroscopiques actuelles. Pourtant, c'est dans cet environnement que la vie microbienne va naître et commencer à évoluer. Émergent alors de nouveaux métabolismes qui, peu à peu et pendant des milliards d'années, modifient les conditions environnementales. Ces modifications locales vont, avec le temps, avoir un impact global. Deux événements majeurs de l'histoire de la planète sont directement liés à la vie. Il s'agit des phénomènes d'oxydation et d'oxygénation de l'atmosphère du début du paléoprotérozoïque, il y a 2,4 milliards d'années, et de la fin du néoprotérozoïque, il y a 700 millions d'années. L'influence de l'oxydation. Le premier grand événement climatique mondial est ainsi lié à un épisode d'oxydation, le Great Oxidation Event, ou GOE en anglais, qui commence il y a 2,4 milliards d'années et dure environ 500 millions d'années. L'atmosphère, qui était jusque-là demeurée anoxique, c'est-à-dire dépourvue d'oxygène, plus de 2 milliards d'années, s'en est trouvée largement modifiée. Les enregistrements géologiques racontent cette histoire. Les roches sédimentaires datées de 2,4 à 2 milliards d'années sont chimiquement et isotopiquement différentes des roches plus anciennes, ce qui témoigne d'une augmentation de la pression du dioxygène dans l'atmosphère. D'où vient ce dioxygène? Principalement de l'activité photosynthétique du vivant, comme le suggère l'excédent de carbone 13 dans les carbonates marins de l'époque. Cet isotope du carbone permet en effet de mesurer l'efficacité de la pompe biologique. Les organismes photosynthétiques absorbant préférentiellement le carbone 12, le carbone 13 délaissé, domine alors dans les carbonates. Cette oxydation de l'atmosphère va à son tour influencer l'évolution de la vie en favorisant le développement de nouveaux organismes pouvant, entre autres, utiliser le dioxygène pour respirer. Les hétérotrophes aérobiques. Le début du paléoprotérozoïque est contemporain de la glaciation planétaire huronienne il y a 2,4 milliards à 2,1 milliards d'années, au cours de laquelle les températures moyennes étaient d'environ moins 25 degrés Celsius et dont les causes et les conséquences sont toujours discutées. L'une des hypothèses avancées met directement en cause l'oxydation de l'atmosphère responsable d'une réduction importante de sa teneur en méthane, puis en gaz à effet de serre, et donc d'une diminution de la température globale et de l'oxygénation de l'atmosphère. Le deuxième épisode climatique majeur de la Terre est lié à un phénomène d'oxygénation de l'atmosphère, le Neoproterozoic Oxygenation Event, ou NOE en anglais. Il débute à la fin du Protérozoïque, il y a environ 800 millions d'années, et s'achève au début du Phanérozoïque, il y a quelque 542 millions d'années, lorsqu'apparaissent les premiers petits animaux à coquilles. Deux glaciations planétaires de type Terre-boule de neige ont lieu à cette époque. La glaciation sturtienne, il y a 760 à 700 millions d'années, et la glaciation marinoenne, il y a 650 à 635 millions d'années. De grandes quantités de sédiments glaciaires se déposent alors à faible latitude, comme en témoignent les diamicitites, des conglomérats chaotiques de roches sédimentaires dont la répartition montre que la banquise a atteint l'équateur au cours de ces périodes. Ces glaciations ont été extrêmes. Une couche de glace de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur a recouvert la surface de la Terre, isolant l'océan de l'atmosphère, inhibant notamment toute activité photosynthétique. La vie a ensuite pris sa revanche. Partout dans le monde, on observe que les diamictites glaciaires sont recouvertes d'épais niveaux de carbonate dont la base est souvent constituée de stromatolites. Ces roches laminées, formées par des communautés microbiennes, témoignent de la recolonisation massive des océans au cours des deux déglaciations. Celles-ci, très rapides, ont entraîné un afflux considérable de particules détritiques dans l'océan, autant de matériaux nutritifs qui a favorisé l'explosion du vivant. Si les changements climatiques ont été à l'origine de grandes extinctions, ils ont aussi continuellement exercé une pression de sélection sur la biodiversité et ont été à l'origine de radiations évolutives. Les roches sont les témoins de ces bouleversements, contenant les clés pour reconstruire l'histoire passée de notre planète, mais également pour mieux envisager son avenir. C'était « La coévolution de la vie et du climat à l'échelle des temps géologiques », un texte de Pierre Saint-Joffre et Sylvain Bernard, paru dans le magazine La Recherche, avril-juin 2023.
Quand l'éthique fait naufrage. Un texte de Mélissa Guillemette, paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine Québec Science. À qui appartiennent les fonds marins? La question se pose encore une fois alors qu'un nouveau type d'exploitation émerge grâce aux avancées technologiques. Après les chaluts qui grattent les fonds pour récolter poissons et crustacés, les plateformes qui extraient le pétrole et les véhicules qui minent les grandes profondeurs, on passe maintenant aux sous-marins qui fouillent et pillent les vestiges historiques. Le magazine Bloomberg Businessweek a mené une enquête ces derniers mois pour découvrir que le millionnaire britannique Anthony Click a pillé une dizaine d'épaves dans le monde grâce à des équipements sous-marins de pointe. Ce gestionnaire de fonds spéculatifs possède une flotte de robots autonomes à batterie qui peuvent scruter de vastes territoires ainsi que des appareils capables de récupérer des tonnes d'objets précieux à des kilomètres de profondeur. Le genre de mission qu'il aurait été impensable de réaliser il y a quelques années encore. Le pire est que son groupe se masque derrière une aura scientifique. Quand son navire s'est fait accoster par les autorités islandaises en 2017, l'équipage a affirmé faire de la recherche. Il cherchait en fait le SS Minden, un cargo allemand qui a sombré pendant la Seconde Guerre mondiale et à bord duquel se trouvaient de riches personnages qui avaient peut-être des biens de valeur avec eux. Une des entreprises liées à Anthony Click a même obtenu des fonds des gouvernements britanniques et norvégiens pour développer des technologies de propulsion plus écologiques, a révélé Bloomberg Businessweek. On estime que plus de 3 millions d'épaves reposent ainsi au fond des eaux. Elles racontent l'histoire des relations internationales et des techniques maritimes, entre autres. Leur préservation est actuellement menacée par l'acidification des eaux et la pollution, ainsi que par des espèces envahissantes. C'est le cas dans nos grands lacs, où les moules quaggas et zébrés dégradent les bateaux. La fenêtre de temps pour documenter le contenu des fonds marins n'est donc pas infinie. Mais retrouver et étudier ces navires du passé coûte une fortune, à moins de revendre une partie des trésors qui s'y trouvent. L'UNESCO a adopté, en 2001, la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique qui stipule clairement que les épaves et autres ruines immergées en haute mer, dans les lacs et dans les rivières depuis plus de 100 ans, doivent être protégées de toute exploitation commerciale. Or, à peine 67 États l'ont ratifié, et le groupe d'Anthony Click et les autres équipes du genre semblent ne pas avoir trop de mal à échapper à leur surveillance. Il me semble que le temps est plutôt au respect des sites archéologiques et des tombeaux, car c'est bien ce que sont plusieurs de ces épaves. Même s'il peut être acceptable de suivre des pratiques archéologiques strictes pour récupérer des objets comme des pièces de navires, vous n'iriez pas dans un cimetière et ne commenceriez pas à déterrer des gens pour récupérer des effets personnels, disait au National Post l'archéologue amateur canadien Jacques Marc en 2012, alors que des objets tirés du Titanic étaient vendus à grand prix aux enchères. La Convention prévoit que la récupération d'objets peut être autorisée lorsqu'elle contribue de manière significative à la protection ou à la connaissance de ce patrimoine. Mais cela ne semble pas être le but des pirates modernes, qui s'intéressent avant tout aux pièces d'or et autres lingots d'argent. Il est dommage que la recherche scientifique, la vraie, n'ait souvent pas les fonds nécessaires pour mener de grandes missions d'exploration internationale et que le champ soit donc libre pour les individus qui ont un signe de piastre à la place du cœur. Mais des initiatives récentes sont à souligner. L'été dernier, la Croatie et l'Espagne ont signé une entente de collaboration pour la recherche et la préservation du patrimoine de la Méditerranée. La Turquie a formé 400 plongeurs et plongeuses qui seront autant de sentinelles pour la protection et la recherche. Enfin, un débat a lieu en Australie pour ratifier la Convention, alors que la Gambie, l'Irak, la Mauritanie et le Qatar sont les derniers à l'avoir fait en 2023. À quand pour le Canada? C'était « Quand l'éthique fait naufrage », un texte de Mélissa Guillemette paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine Québec Science.
Sexe dangereux, un texte de Gabriel Antil paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine Québec Science. Le commerce de services sexuels devrait-il être légal? La question est de nouveau dans l'actualité, cette fois-ci en lien avec une requête judiciaire de l'Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe qui veut faire invalider la loi fédérale actuelle. Depuis 2014, les personnes qui se prostituent ne sont plus considérées comme criminelles selon la loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation. Ce sont plutôt les individus qui achètent de tels services ou qui agissent comme proxénètes qui se rendent coupables. Cette approche, aussi connue comme le « modèle nordique », en référence aux pays du nord de l'Europe qui l'ont popularisé, vise à terme à éliminer le plus vieux métier du monde en décourageant la demande. L'Alliance, qui a été déboutée devant la Cour supérieure de l'Ontario l'automne dernier, mais interjette appel de la décision, souhaite aller plus loin. Son but est de faire tomber toutes les lois entourant la vente de services sexuels, arguant notamment qu'elles nuisent à la santé de celles et ceux qui pratiquent ce métier, mais aussi à leur droit à l'autonomie et à l'autodétermination et à la sécurité du travail. Ses opposants, dont la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, font plutôt valoir que la décriminalisation serait une normalisation de la violence faite aux femmes. Parler de prostitution soulève inévitablement la polémique et a, par le passé, causé maintes déchirements, notamment au sein de groupes féministes. Même le choix du vocabulaire s'avère controversé. Selon qu'on parle de prostitution ou de travail du sexe, on se classe immédiatement dans l'un ou l'autre des camps. La science peut-elle nous aider à voir clair dans ce débat? Retour sur 2014. Au Canada, selon la loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation, la prostitution consiste à payer pour obtenir les services sexuels d'une personne ou à communiquer avec quiconque en vue d'obtenir, moyennant rétribution, de tels services. Adoptée en 2014 sous le gouvernement Harper, cette loi venait en réponse à un jugement de la Cour suprême qui, en 2013, avait tranché en faveur de Terry Jean Bedford, une ex-tenancière de bordel à Toronto. Celle-ci avait mis en cause la constitutionnalité des lois qui encadraient la prostitution à l'époque où des actes comme se trouver dans une maison de débauche ou en tenir une, vivre des produits de la prostitution ou communiquer avec quelqu'un en public en vue d'un acte de prostitution, tant pour le client que pour la prostituée, était considéré comme criminel. Le jugement Bedford a mené à la mise en place d'une loi visant plutôt la clientèle. Selon la nouvelle réglementation, ce sont les tierces parties, dont les clients et les proxénètes, mais aussi les gardes du corps ou les chauffeurs, qui sont à risque de poursuites criminelles, mais pas les personnes qui vendent des services sexuels. Décriminaliser, c'est bon pour la santé. Bien que la question soulève encore les passions, pour de nombreux chercheurs et chercheuses en santé publique, elle est close. Il y a un consensus scientifique en faveur de la décriminalisation, souligne la docteure Sarah Amélie Mercure de la Direction de la santé publique de Montréal. Pour cette raison, diverses instances telles que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Amnesty International ou l'Organisation des Nations unies, ONU, se sont positionnées pour le retrait des lois entourant le travail du sexe. Elles se basent sur de solides preuves scientifiques qui tirent toutes la même conclusion. Pour améliorer le bien-être des travailleuses et travailleurs du sexe, ce sont surtout des femmes, il faut retirer les barrières légales qui encadrent leur métier. Ainsi, dans un contexte de criminalisation, la menace de l'arrestation par la police déplace les travailleurs du sexe vers des lieux de travail isolés, perturbe les réseaux de soutien par les pairs et limite les possibilités de réduction des risques, rapporte une méta-analyse parue dans le journal PLOS Medicine en 2018 et qui évalue les liens entre les lois encadrant la vente de services sexuels et la santé de celles et ceux qui les offrent. Lorsque leur métier est criminalisé, les travailleuses et travailleurs ont moins le temps d'évaluer si leurs clients, ce sont principalement des hommes, semblent fiables avant de conclure la transaction. Il faut agir vite, avant d'être remarqué par la police. Si les personnes qui se prostituent subissent une agression, elles auront moins envie de se tourner vers les autorités pour demander du soutien. Bref, la criminalisation rend le travail du sexe dangereux. Peut-on vraiment faire disparaître ce métier qui choque de nombreuses personnes? Il n'y a pas de preuve que la criminalisation puisse atteindre son but, souligne Tamara O'Doherty, professeure de criminologie à l'Université Simon Fraser. Quand on regarde la science, on voit qu'au contraire, on contribue à causer des préjudices plus importants aux gens déjà ciblés par le système criminel, comme les personnes autochtones ou noires. En finir avec le sida. Il n'y a pas que la sécurité des travailleuses et travailleurs qui est en jeu. Leur santé l'est aussi. L'un des arguments principaux en faveur de la décriminalisation du travail du sexe concerne d'ailleurs l'épidémie de sida. C'est notamment l'un des objectifs du Programme commun des Nations unies sur le VIH-SIDA, ONU-SIDA, qui vise à mettre fin à l'épidémie de sida comme menace de santé publique d'ici 2030. Pour y arriver, l'organisme souhaite que, d'ici 2025, 90% des pays du monde aient éliminé les lois qui empêchent les personnes à risque de contracter le virus d'obtenir les services et les protections permettant de réduire ces risques. En effet, les pays qui criminalisent la prostitution enregistrent des avancées moindres en matière de dépistage et de traitement du VIH selon le programme. Une étude de modélisation de la professeure Kate Shannon de l'Université de Colombie-Britannique, datée de 2015 et parue dans la revue The Lancet, concluait que, si les lois qui criminalisent le travail du sexe étaient éliminées, 39% des infections par le VIH pourraient être évitées par les travailleuses du sexe et leurs clients dans la décennie suivante grâce à une réduction de la violence et du harcèlement policier, ainsi qu'à un environnement de travail plus sécuritaire et à une augmentation de l'usage des condoms dans la ville de Vancouver. Le cas néo-zélandais. Seuls deux pays dans le monde sont allés de l'avant avec la décriminalisation du travail du sexe, la Nouvelle-Zélande en 2003 et la Belgique en 2022. La New Zealand Prostitution Reform Act stipule que ni les travailleuses et travailleurs du sexe ni leur clientèle ne sont coupables d'un crime. 5 ans plus tard, Gillian Habel, professeur au département de la santé populationnelle à l'Université d'Otago, s'est vu confier la co-rédaction d'un rapport analysant les effets de ce changement législatif dans son pays. Résultat, l'industrie du sexe n'a pas pris d'ampleur et bon nombre des maux sociaux prédits par certains opposants à la dépénalisation de l'industrie du sexe ne se sont pas concrétisés, lit-on dans le rapport. Pour la chercheuse, cette nouvelle loi a été une victoire pour la santé et la sécurité des personnes vivant du travail du sexe. Avant la décriminalisation, les clients et les bordels avaient tout le pouvoir. Maintenant, quand des gens essayent de les exploiter, les travailleuses savent quoi faire pour faire respecter leurs droits. Elle cite une poursuite qu'une prostituée avait intentée en 2014 contre un exploitant de maison close qu'elle accusait de harcèlement sexuel. La plaignante a remporté sa cause. Tant qu'à décriminaliser, pourquoi ne pas légaliser? Dans le vocabulaire juridique, la décriminalisation et la légalisation sont deux choses différentes. On a pu voir un exemple de cette nuance dans les dernières années où la vente de cannabis a été légalisée à travers le pays. Selon notre modèle, il n'est possible de vendre cette plante psychotrope que dans les commerces expressément désignés et selon des règles précises. De manière similaire, une légalisation de la prostitution s'accompagnerait probablement de règles gouvernementales précises, exigeant par exemple des dépistages réguliers des infections transmissibles sexuellement et par le sang, ITSS, ou le port du condom. Une bonne idée, non? Selon Tamara O'Doherty, cette approche serait plutôt une manière de contrôler et de surveiller les travailleuses et travailleurs du sexe. Les policiers pourraient vérifier que la personne a bien son permis sur elle. Si celui-ci est attaché à une certaine agence, un bordel, par exemple, on ne peut pas la quitter librement. Bref, une telle approche ne parviendrait pas à offrir la sécurité demandée par les travailleuses du sexe, selon la chercheuse. La prostitution a été légalisée à divers endroits dans le monde, notoirement aux Pays-Bas et en Allemagne, mais également dans l'État du Nevada, aux États-Unis et dans l'État de Victoria, en Australie. Avant qu'une loi décriminalisant le commerce du sexe soit adoptée ici, il faudra faire un bon bout de chemin. Le plus difficile demeure peut-être de démonter les idées préconçues. Est-il temps de dépasser nos préjugés envers la vente de services sexuels? Pour Gillian Habel, une chose est claire, la décriminalisation est la seule approche qui a eu des effets positifs pour les travailleuses. C'était « Sexe dangereux », un texte de Gabriel Antil paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine Québec Science.